Alors bonjour à chacun pour ce culte que nous allons vivre ce matin ensemble. Et vous savez que vous êtes accueillis les uns par les autres, mais vous êtes surtout accueillis par le Seigneur. Et le Seigneur nous aime et il nous fait du bien. Alors vous êtes peut-être riche, vous avez peut-être 1 million en banque, vous avez peut-être 2 millions, je ne sais pas, vous êtes peut-être très très riche. Vous êtes peut-être dans la classe moyenne, comme on dit, vous avez une voiture, vous avez un salaire, vous avez une télévision, un ordinateur, peut-être deux, un téléphone portable. Ou alors vous êtes dans la catégorie de ceux qui n'ont pas trop de sous, on dirait pas pauvres aujourd'hui, mais ceux qui ont de la peine à boucler la fin de mois, à payer leur assurance maladie, qui ont des retards de paiement pour le loyer et qui sont dans des difficultés. Mais on a une chose en commun, c'est que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Alors tout ça, c'est sur terre, c'est ce qu'on voit. Maintenant, au ciel, comment ça va être? On aimerait bien savoir. Où serons-nous? Du côté des riches? Du côté des pauvres? Comment ça va être? Les méchants d'un côté, les bons de l'autre? Et en fait, c'est une réflexion sur ce thème qui va vous être proposé ce matin. C'est savoir quelle place nous avons là-haut. Un thème difficile, mais intéressant. Alors, je vous invite à prier avant que nous continuions ce culte. Oui, Seigneur, merci pour ton accueil, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous pouvons nous ressourcer en toi. Nous voulons vraiment te remercier pour ta présence, pour ta paix, pour la vie que tu nous donnes. Et nous te confions ce culte, donne-nous une oreille attentive, donne-nous des sentiments pour toi, donne-nous de pouvoir te louer de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors vous savez que j'aime bien les psaumes, alors je vais vous lire un morceau de psaume, le 145. Mon Dieu, toi le roi, je veux dire ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et te glorifier sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je veux énumérer tes hauts faits. Qu'on rappelle les grands bienfaits et qu'on proclame ainsi ta fidélité. Voilà, c'est un magnifique psaume. La suite est aussi intéressante, je vous encourage à le lire, c'est le 145. Voilà, on va entrer dans un temps de louange, mais peut-être présenter l'équipe. Donc c'est Maurice Salib qui fera la prédication. Et ce n'est pas les deux Strubins comme certaines années quand je participe au culte de l'été, mais c'est les deux Daniel. Donc il y aura Daniel Demoux et Daniel Strubin qui s'occupent de l'animation. L'équipe de louange, comme certains le savent, il n'y avait pas d'équipe. Donc des gens qui ont accepté de venir aider à la louange, à chanter. Donc c'est une équipe totalement improvisée ce matin. Voilà, bien sûr qu'il y a Sylvain Dupertuis et un certain nombre d'autres personnes qui ont participé à la préparation de ce culte. Alors, je vous invite à vous lever et on va commencer les chants. Béni soit le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je rappelle que bénir, ça veut dire du bien. Donc, on va dire du bien de notre Seigneur. Et je vous invite à chanter le 523.
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, notre Dieu. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs. Pour être sauvé, le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut.
Alors, quand je suis venu ce matin, j'ai passé la porte principale. Ensuite, je suis entré dans le foyer. Alors, évidemment, foyer, on pense à se réchauffer. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se réchauffer ce matin. Et là, je suis dans la cour, où je suis dans le temps pour exprimer ma joie. Et pour ça, on va chanter le 428 « J'entre dans tes portes ». Entendre la voix du Seigneur, est-ce un rêve? Est-ce une volonté? Est-ce un désir profond de notre part? Et si Dieu répondait à notre prière, à notre demande? Moi, j'y crois. Je crois que le Seigneur entend. Non seulement il entend, mais il écoute, c'est-à-dire qu'il est attentif et il converse avec nous, il désire nous parler. Alors, je vous propose le chant 425, « Je désire entendre ta voix ». Et je vous propose de bien lire et comprendre les paroles.
Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton père.
Enchaînerons avec deux chants, le Dieu de lumière et une chose, 529 et 555.
Et dans nos vies entières t'honorer, tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer, et avec les anges viens le célébrer. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours.
Une chose.
Pour la prédication de ce matin, nous aurons deux lectures dans Luc. La première, c'est dans Luc 4, 14 à 21. Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire dans les Écritures. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le rouleau de ce livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture s'est réalisé aujourd'hui, au moment même où vous l'avez entendu lire. »
Merci. La deuxième lecture est Luc 16, versets 19 à 31. Histoire de l'homme riche et du pauvre, Lazare. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son ongle dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. » car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as eu des biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers vous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit, « Non, Père Abraham, même si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. »
Frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue de la part du Seigneur à chacune et à chacun ce matin ici. Je suis heureux de vivre ce culte avec nos deux communautés réunies et les visiteurs de ce jour pour le partage de la parole et du pain. Heureux aussi de ne pas avoir apporté la robe et vous souffrirez que j'enlève ma veste également car vous comprenez la situation. Heureux de partager avec vous la parole et le pain. J'inaugure une série de 8 cultes sur le thème que vous avez choisi avec mon collègue Roger. La bonne nouvelle est-elle réservée aux pauvres? Qu'en est-il des riches? Richesse et pauvreté dans les paraboles de l'évangile de Luc. Savez-vous qu'il y a 2084 allusions à la richesse et à l'argent dans la Bible, contre 215 à la foi et 208 au salut. Cela veut dire que le rapport à l'argent est révélateur de notre personnalité et surtout de notre façon de vivre la foi. Il n'y a pas en effet séparation entre le matériel et le spirituel. Dans la perspective biblique. La richesse, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, témoigne d'un domaine particulièrement sensible, une zone test pour notre foi, un lieu de vigilance de tous les instants, un terrain glissant aussi. C'est pourquoi les auteurs bibliques abordent ce sujet, à commencer par Jésus lui-même. L'argent tient une place importante dans les évangiles, mais tout particulièrement dans l'évangile de Luc. La parabole du gérant habile, que nous verrons ensemble le 16 août, la parabole de Lazare et du riche, qui vient de nous être lue et qui nous occupera ce matin, la parabole du riche insensé, la semaine prochaine avec Denise, et les autres dans les domaines, dans les semaines suivantes, nous le confirmerons, notamment avec Philippe. Voyez pour cela ce papillon que nous avons établi, qui présente la série des 8 cultes. À l'heure où la Grèce pauvre est montrée du doigt et exclue par l'Europe, et où les pauvres d'Afrique doivent à peu près choisir entre mourir noyé en Méditerranée ou rester pauvre en Afrique, il est bon de se souvenir de cette citation attribuée au pasteur Martin Niemöller, qui a été déporté dans les camps de concentration. Il disait « Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes. » Les chrétiens que nous sommes ont aussi une responsabilité pour la redistribution des richesses et la pratique de la justice. Voyons comment l'exercer. Un jour, dans une école talmudique, un élève demande à son rabbin « Pourquoi un pauvre est amical, est prêt à aider, tandis qu'un riche ne nous remarque même pas. » Le rabbin lui demande alors de regarder par la fenêtre. Il y voit une femme avec son enfant qui va au marché. Ensuite, il lui dit de se tourner vers un miroir. Elle lui demande ce qu'il voit. L'élève répond « Moi-même ». Et le rabbin continue en lui disant « La fenêtre est faite en verre, le miroir aussi, mais au fond de ce dernier, il y a une couche d'argent. Et vois-tu, dès qu'on met un peu d'argent derrière le verre, on ne voit plus que soi-même. L'argent risque de conduire celui qui en possède à ne voir et à ne penser qu'à lui-même, sans s'occuper ou se préoccuper d'autre chose. C'est grâce à une petite histoire, celle de Lazare et du riche, que Jésus nous interpelle. Il nous invite à nous interroger en profondeur sur la manière dont nous faisons usage, bon ou mauvais, de tout ce que nous possédons. L'histoire d'aujourd'hui est simple. Deux tableaux, deux actes. Dans le premier acte, elle met en scène un homme riche, vêtu luxueusement, qui fait chaque jour des festins somptueux, et un pauvre. Il a un nom, le pauvre, le riche pas. Le nom du pauvre, Lazare. Dieu vient en aide, en hébreu. Ce pauvre est couvert de plaies à la porte du riche. On ne lui donne rien, même pas des miettes, et ce sont les chiens qui viennent lécher ses plaies. Deuxième acte, changement radical de situation. Lazare est dans le bonheur, tandis que le riche, dans le séjour des morts, est soumis à la torture. Leur destin à tous deux s'est inversé, et cela pour l'éternité. Personne n'y pourra rien changer. Simpliste. À première vue, cette histoire est irritante. Elle nous paraît simpliste. Alors, parce que je suis heureux sur cette terre et que je jouis d'un certain confort, je devrais le payer dans l'éternité. Il suffirait donc que je connaisse la pauvreté et le malheur sur cette terre pour que je sois pleinement heureux dans l'éternité. Cette parabole ainsi comprise, vous le savez, serait dangereuse et même ignoble. De quoi s'agit-il alors? Essentiellement, Jésus fait ici la description d'une incapacité. La richesse met l'homme riche dans l'incapacité de voir Lazare, à plus forte raison d'entrer en relation avec lui. On a parlé du mur de l'argent. On parle aujourd'hui de fracture sociale, de société à deux vitesses. Toutes ces expressions indiquent les séparations qui existent aujourd'hui, non seulement entre pays développés et pays en voie de développement, mais ici même, à notre porte. Jésus nous dit, attention, ta richesse risque de te couper des autres, de te faire passer sans t'arrêter et sans voir celui qui, tout près de toi, est un exclu. Un être dans le besoin. Les riches, toujours plus riches. Les pauvres, toujours plus pauvres. Cette situation d'aujourd'hui, que nous créons de notre vivant, par complicité molle ou par indifférence, lorsque ce n'est pas par pur égoïsme, va d'un seul coup se durcir pour l'éternité. Alors, et alors seulement, si l'on y prend garde, on mesurera le fossé qui s'est creusé, l'abîme. Mais ce sera trop tard. Voilà donc signifié un lien de causalité entre nos actes et l'éternité. Nous fabriquons aujourd'hui notre éternité. Au fond, croyons-nous vraiment que toutes nos démarches, toutes nos activités sont motivés par cette dimension d'éternité. Même si nous croyons à la vie éternelle, est-ce en fonction de cette foi que nous vivons, que nous agissons? Or, la vie éternelle est déjà commencée et notre vie terrestre n'en est que le préambule, déjà et pas encore, comme un apprentissage. Si durant cette vie, tu as tout fondé sur l'amour, l'échange fraternel, une vie ouverte aux autres. Tu fais l'apprentissage de l'éternité bienheureuse. Si au contraire, tu as tout misé sur tes biens matériels, qui qui te donne une certaine sécurité, mais pour combien de temps? Les séparations, les fractures que tu as contribué à créer vont se durcir éternellement. On ne se moque pas de Dieu et de son prochain. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il y a donc un jugement. Quel vilain mot, on n'aime plus l'entendre, hein. Ça fait fuir les donateurs. L'impunité n'est pas éternelle. Nous aurons à rendre des comptes. À qui? À Dieu. Un jour, le couperet tombera pour l'éternité. C'est aussi ce que nous dit cette parabole. Mais la bonne nouvelle, et il y en a une et deux tailles, nous l'avons entendu avec le premier texte, c'est que nous vivons en l'an de grâce 2015, an de grâce. Et aujourd'hui encore, Dieu ne veut pas la mort et les tourments du pécheur, mais sa repentance. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui encore, Dieu fait grâce, car il est fidèle et juste pour pardonner à quiconque confesse et reconnaît sa faute. Le but de la parabole n'est pas de culpabiliser les riches, mais de les amener à pratiquer la solidarité et à réduire la fracture sociale, le fossé riche-pauvre, nord-sud, pendant qu'il en est encore temps. Il faut donc nous convertir dès maintenant, nous dit Jésus. Plus tard, c'est trop tard. Le riche de notre parabole se damne parce qu'il n'a pas su, à temps, se rendre proche de ses frères. Nous qui entendons ceci aujourd'hui, même si nous ne sommes pas riches, il faut nous convertir. Nous voilà avertis. Au fond, nous sommes tous des riches par rapport à quelqu'un, sans parler du tiers-monde. Nous savons bien qu'aujourd'hui, la détresse est à notre porte. La question est, passons-nous sans voir? Et que faisons-nous? Tout miser sur ce qu'on possède, c'est, je crois, jouer le mauvais cheval, parce qu'on sort du règne de l'amour fraternel, donc du règne de Dieu. Il y a des gens, vous en connaissez comme moi, qui naturellement vivent toute leur vie avec le souci de leurs frères, sans l'aide de la religion. Mais nous, les chrétiens, comme le riche de la parabole, nous sommes totalement inexcusables si nous faisons le mauvais choix. Parce que nous avons Moïse et les prophètes, la Bible. Nous avons surtout Jésus-Christ qui nous parle chaque dimanche, chaque jour, si nous le voulons bien. L'écoutons-nous? Où est notre trésor? Comment les paroles de Jésus changent-elles la façon dont nous établissons nos priorités? S'il nous fallait simplifier notre existence, soit matériellement, soit intérieurement, que laisserions-nous de côté? Que garderions-nous? Daniel Marguerat écrit dans un de ses commentaires, « Il faut profaner l'argent. Ce n'est ni un dieu, ni un temple. Il est fait pour l'échange et pour la vie. Il est bien ce bon serviteur et ce très mauvais maître. » Comment le riche peut-il faire? C'est Calvin qui nous donne des pistes. Il prêchait ainsi. Que ceux qui ont abondance, bien qu'ils en puissent user comme de leur propre, néanmoins ne doivent pas gourmander le tout, mais en doivent faire part à ceux qui en ont faute et subvenir à leur indigence, chacun selon sa faculté et mesure. En d'autres termes, le propriétaire d'un bien n'en est pas, comme dans les droits romains et modernes, son maître absolu, mais simplement son gestionnaire, son administrateur. Le ministère du riche, car il y en a un. Le riche est appelé à servir, comme le pauvre. Calvin, dans sa prédication, ne laissait pas place au doute. Tu possèdes ce que tu as de la main de Dieu. À quelles conditions est-elle ? Ce n'est point pour tes beaux yeux. Que ceux qui sont riches avisent qu'ils ont en plus grande charge et qu'il faudra qu'ils rendent compte des biens que Dieu leur a mis en main. Dieu accorde aux riches, en plus de sa part, une part des biens qu'il destine à d'autres. Sur la circulation et la distribution équitable des biens entre tous, Calvin dit « Voilà à quelles conditions Dieu met le bien en la main des riches, subvenir à leurs prochains, indigents. Les riches ont reçu plus grande abondance à cette condition qu'ils soient ministres des pauvres, en dispensant les biens qui leur ont été mis entre les mains par la bonté de Dieu. » Calvin parle plus loin de la situation du pauvre comme d'une épreuve et non pas comme une vertu ou un ticket pour le paradis. Pourquoi Dieu donne-t-il aux riches, si souvent mauvais, la part des pauvres ? Dieu veut que les hommes vivent dans une interdépendance. Il veut que nous ayons besoin les uns des autres. Ce qui implique la redistribution des richesses, qui est une vérité pour les individus que nous sommes, pour les communautés que nous représentons, les familles, les nations et les continents. Le pauvre est finalement victime du péché de la société. C'est le rôle de l'Église d'amener les fidèles et l'État à tendre vers cet objectif. Pour conclure, transformer le rapport de l'homme à l'argent. Vivre une forme nouvelle de liberté, révolutionnaire autant pour celui qui possède que pour celui qui ne possède pas. C'est l'objectif chrétien. Notre identité est en Christ et non plus en nos biens. Il s'agit d'être libre par rapport à ce que l'on possède, de mettre ce que l'on a au service de la construction de l'Église et du royaume qui humanise le monde, qui en a bien besoin. Dès maintenant, là, tout de suite. Alors oui, c'est encore une année de grâce qui est devant nous. Oui, Jésus est venu libérer les captifs, entre autres de Mammon. Mais si Jésus ne met pas d'autres conditions à la grâce que de croire à sa parole, il nous dit dans cette parabole que la grâce dans nos vies doit avoir des conséquences dans notre rapport aux autres et donc pour les autres. Frères et sœurs, investissons pour l'éternité, soyons ministres des pauvres. Amen.
Nous allons bientôt commencer ce temps de Sainte Cène. Et pour, comme introduction, je vous propose de chanter le 205. Non, le 204, le Seigneur nous a aimés. C'est un ancien chant, mais qui a toute sa valeur pour la Sainte Cène. Asseoir.
Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ. De reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort et de sa résurrection, et l'annonce de son royaume. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. »
Nous prierons. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce partage que tu nous permets de vivre ensemble. Merci de nous avoir donné ta vie par ton corps, de nous avoir donné ta vie par ton sang. Seigneur, que nous puissions en être reconnaissants de tout notre cœur. Oui, tu as donné toute ta vie pour nous, pour que nous puissions vivre à notre tour et donner à notre tour. Merci pour ta présence et nous te prions de nous remplir de ta présence, de ton esprit, pendant ce partage du pain et du vin. Amen. J'aurais besoin de deux personnes pour me donner un coup de main, la distribution. Alors, je rappelle qu'au centre se trouve le jus de raisin et à l'extérieur, c'est du vin. Donc, vous pouvez choisir. Et ceux qui désirent la coupe, lèvent la main et j'amènerai la coupe.
Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit béni. Béni sois-tu, Père, toi qui allumes en nos obscurités le feu qui ne s'éteint jamais. Béni sois-tu, Jésus-Christ, qui t'offre à nous pour que nous devenions semblables à toi. Béni sois-tu, Esprit Saint, qui ouvre nos cœurs et nos lèvres à la louange. Amen.
Voilà, je vous invite à un temps d'offrande en chantant le 570 « Entends mon cœur ».
Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
Là, pouvez-vous asseoir? Seigneur, nous te confions cet argent qui a pu être récolté. Nous voulons te demander que tu le fasses fructifier. Nous te demandons de guider ceux qui doivent choisir comment l'attribuer. Te prions que cela serve surtout à l'avancement de ton règne, de ton royaume, de ta présence dans le monde. Merci Seigneur pour ces dons que nous pouvons te faire. Amen. On a encore un petit peu de temps, je me demandais si on ne pourrait pas avoir un temps de prière aussi suite à cette prédication et pour faire écho et aussi pour que le Seigneur nous guide face aux gens qui sont déshérités, qui sont pauvres, quelle attitude nous devons avoir, quelle action nous devons avoir, ça peut être un sujet de prière. On peut aussi prier pour nous envoyer, que ce soit de l'Église protestante, que ce soit de l'Église évangélique, mais tous ceux qui travaillent aussi dans le monde pour le Seigneur, qui consacrent leur vie. Alors, je vous invite à un petit temps de prière. Faites des prières courtes, comme ça, le maximum peuvent prier. Merci. Oui, Seigneur, guide-nous. Tu vois que les problèmes sont énormes sur cette planète, qu'il y a une énorme population qui n'a rien. Nous vont te demander de les bénir, de les guider, de nous montrer aussi parfois comment nous pouvons nous impliquer autour de nous, comment nous pouvons donner ce que nous avons reçu de toi. Seigneur, guide-nous chaque jour. Amen.
Seigneur, que ce ne soit pas la culpabilité, mais l'amour qui ouvre
combler les vides qui se sont créés par l'injustice, nous permettons chacune de ces ONG à travers le monde préoccupée d'une justice équitable. Nous demandons de les bénir et de les fortifier par Jésus-Christ. Amen.
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 Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais ce matin de nous tenir devant le Dieu trois fois saint. Et Seigneur, si c'est un grand privilège qui nous est donné, c'est parce que dans ton amour, tu nous as permis le Fils, le Seigneur Jésus, pour nous sauver de nos péchés, pour nous accorder la grâce et la vie éternelle. Merci pour ce don. Et remplis nos cœurs de ta paix et de ta joie au nom de Jésus.
Amen. Amen.
Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs des communautés que nous représentons, mais aussi des autres communautés ici à Mérin. Merci Seigneur de nous renouveler par nos corps, nos âmes pendant ces vacances, mais aussi notre esprit, Seigneur. À la rentrée, nous te demandons, Seigneur, une onction particulière pour que nos communautés remplissent la mission que tu nous appelles à conduire. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Merci parce que tout est grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, que ton esprit m'illumine et de toi, ce que je dois faire dans ma vie, où on doit donner, où on ne doit pas donner, le discernement du Seigneur, parce que souvent ce que vient de nous, il faut en croire que c'est.
Amen. Amen. Voilà, nous aurons un temps d'annonces. Je ne sais pas qui a des annonces à part Maurice. Est-ce qu'il y a des annonces au niveau de l'Église évangélique ?
J'en refais juste une parce que j'ai une personne qui a demandé, j'ai ramené des exemplaires de ce livre Rescapé malgré moi de Pat Kuhn, qui est un récit extrêmement émouvant d'un ami cambodgien qui est maintenant pasteur en France et qui raconte sa fuite de l'enfer des Khmer Rouges après 1975. Et il était d'une famille bouddhiste, il avait un grand respect pour son père qui était très croyant. Et il a aussi découvert Dieu à travers de son arrière-plan, dans la manière dont Dieu l'a conduit et l'a sauvé quelque part et l'a appelé quand il fuyait dans la forêt. Et c'est très bien écrit par sa belle-fille et très émouvant. Donc j'en ai ramené quelques-uns ici, si ça intéresse certains.
Il n'y a pas d'autres annonces, Maurice, je te laisse venir. Au niveau des grillades pour les deux communautés, donc il y a des grillades pas cette semaine qui va venir, mais dans 10 jours, comme mercredi passé. Donc bien sûr, n'oubliez pas de venir avec groupe Grillade, et c'est souvent l'occasion pour le groupe de louanges de venir répéter juste avant.
Mais je refais une annonce pour la chorale qui s'est mise en place. J'ai malheureusement pas pris les dates avec moi, mais vous savez que la commune a souhaité que l'église, enfin, s'est adressée à des gens de l'église évangélique pour monter une chorale, pour chanter le 20... Le 26 septembre, voilà, une journée consacrée au forum à différentes chorales qui ont chacune un espace d'une heure pour chanter et faire chanter les gens. Donc, on a monté une petite chorale qui est animée par, Catherine Meyer. Et on a déjà eu une première répétition juste avant les grillades, mercredi dernier. Et il n'y a pas encore énormément de monde et ça serait sympa s'il y avait quelques autres personnes qui pouvaient nous rejoindre. Alors, il faut s'adresser à Catherine Meyer pour avoir, mais elle n'est pas ici, pour avoir les dates, sinon je peux vous les donner tout à l'heure. Il y a différentes dates juste avant les grillades pendant l'été, puis des répétitions au mois de septembre.
Voilà différentes petites annonces. La première, donc nous nous retrouvons dimanche prochain au CEPOM, tous ensemble, et c'est Denise qui nous conduit avec la parabole du riche insensé. Je me permets de faire deux autres annonces. La première concerne un voyage que nous animerons à la rentrée. Donc le 8 octobre, nous aurons une soirée d'information et de préinscription pour un voyage que nous organisons à Prague. C'est nos paroisses protestantes pour la région qui l'organise. Ce sera à Mérin, le 8 octobre au soir, à 19h. Et je l'organise avec un pasteur qui s'appelle Joseph Benesch, qui a été pasteur dans la compagnie des pasteurs plusieurs années, qui est de Prague et qui a été aussi pasteur à Prague, qui connaît bien toute cette page de l'avant-réforme avec Jean Hus. Donc, si vous voulez en profiter, on vise Pâques prochain. Donc, je crois que vous avez votre place. Je vous informe si l'un ou l'autre voulait nous rejoindre ce jour-là. Et puis, vous qui avez le souci de la transmission de l'Évangile et du contact avec ceux qui ne le connaissent pas encore, nous aurons le 17 septembre prochain, avec mon collègue Philippe Vonesch, une soirée que nous offrons, nous avons informé dans notre journal, qui s'appelle « Recommencer à croire », offerte à tous ceux qui auraient des questions à Dieu. Donc, on ne sait pas, mais merci à vous de porter cela dans la prière. On verra bien ce que ça donne. Voilà. S'il n'y a pas d'autres annonces, je vais dire la bénédiction pour laquelle vous voudrez bien vous lever. Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous renouvelle tous pour son service et pour le service de chacun et chacune. Qu'il nous donne de nous engager chaque jour avec notre cœur et nos biens dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Bon dimanche.